BFM Business, BFM Bourse, les pros des cryptos.
Parce que l'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours et que la blockchain en contient une fraction. On parle des crypto-monnaies et de la blockchain chaque vendredi. Les pros des cryptos avec nos trois experts. Claire Balva, bonjour Claire.
Bonjour.
Co-fondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto pour KPMG France. Il vient aussi de nous rejoindre en plateau, Owen Simonin. Bonjour Owen.
Bonjour Guillaume.
À la tête de Just Mining, connu aussi bien sûr pour sa chaîne YouTube, Asher et Xavier qui nous accompagne toujours. Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. J'espère que vous êtes prêt, place aux nouveaux investisseurs. Mercredi, c'était il y a deux jours donc, on a eu un amérissage et une envolée. L'amérissage, celui de Thomas Pesquet dans l'Atlantique après six mois dans le cosmos. L'envolée, celle des cryptos. C'était mercredi aussi, on a eu un nouveau record historique sur le Bitcoin, 69 000 dollars, ça c'est fait. L'Ether, presque à 4 900 dollars et beaucoup d'autres cryptos. Xavier, est-ce que c'était le bouquet final là, cette semaine? Ça ne semble plus vouloir s'accélérer depuis le record de mercredi. Est-ce qu'il y a déjà plus de carburant? Est-ce que le feu d'artifice Bitcoin sera désormais, Xavier, de moins en moins époustouflant?
La question peut se poser. C'est vrai qu'il y a pris une progression de x2 finalement depuis cet été sur le Bitcoin, 2,5 sur l'Ether et plus largement d'ailleurs la capitalisation totale sur l'ensemble des cryptos finalement a été multipliée donc par 2,5 en 3 mois. Donc on peut se poser effectivement la question du potentiel restant. Alors déjà, il faut oublier que pour une tendance soit saine à moyen terme, une tendance haussière soit saine à moyen et à long terme, le marché doit passer par des phases de stabilisation, voire, et c'est peut-être un peu plus caractéristique sur le marché des cryptos, par des phases de nettoyage. C'est-à-dire ces expositions trop importantes qui sont un peu lessivées et nettoyées. On l'a connu d'ailleurs le 27 et le 28 octobre. Certains peut-être pouvaient considérer que c'était un mouvement de retournement de marché, sauf que justement on était sur une zone technique clé, propre et même défendue. Et d'ailleurs, depuis un mois, en fait, on fait que des excès haussiers et baissiers sur le Bitcoin, un peu au-dessus des 65 000, un peu en dessous des 59 000. Pour le moment, profitons-en effectivement, mais prenons pas ça non plus comme une habitude que tout va forcément s'envoler de x2, x3 en quelques semaines, voire pour certaines en quelques jours. Deuxième point, c'est pas parce qu'on monte pas de 20% forcément toutes les semaines que ça baisse et qu'on est en bear market, on est en marché baissier. Et plus techniquement, troisième point, c'est si on prend des points de repère techniques comme des moyennes mobiles, en reculant, en dézoomant un peu sur nos graphiques, certes, on peut se stabiliser sur ces plus hauts plusieurs jours, voire peut-être même d'ailleurs plusieurs semaines, mais tant que pour le Bitcoin, on reste au-dessus des 58 000, 60 000 dollars, même d'ailleurs si on devait se replier de 15% par rapport au plus haut historique qu'on vient de faire, ben, finalement, on serait toujours dans une tendance de faux haussière. Donc pour la question effectivement du carburant, ben, on a bien roulé depuis un mois, depuis cet été. On a moins de carburant, on a fait une belle ascension, c'est l'heure de s'arrêter à la pompe. Pour le moment, il n'y a aucun signe de panne plus grave pour le moment.
Bon, les cours des cryptos sont-ils liés aussi à l'évolution des fondamentaux, les indicateurs macroéconomiques? Vous êtes tous les trois des explorateurs, vous vous frottez à toutes les questions. Mercredi, l'inflation américaine a atteint un plus haut de 31 ans et suite à cette nouvelle, Owen, le cours du Bitcoin a donc décollé et atteint les 69 000 dollars. Est-ce qu'il existe un lien? Vous, ce record, comment est-ce que vous l'interprétez?
Alors, c'est toujours très compliqué parce que ce record n'a pas duré dans le temps. Hein. On a touché les 69 000. On peut vraiment dire qu'on les a touchés et qu'on s'est carapaté très rapidement. Aujourd'hui, on est à moins de 64 000 dollars, 63 400 à l'heure actuelle. Donc, on peut évidemment essayer de trouver un lien, mais la certitude absolue sur la raison qui fait qu'il y a des gens qui ont acheté à ce moment-là, on pourra toujours la discuter. En attendant, ce qu'on sait, c'est que l'émission de nouveaux dollars tout affecte de près ou de loin, parce que ce n'est pas une cause directe, l'inflation. C'est vrai que bon, 40% de la circulation des dollars ont été émis dans les 6 derniers mois. Naturellement, on peut avoir le droit de penser qu'il y a une raison de près ou loin là-dessus. Et comme on sait que c'est l'un des points que Bitcoin défend et que Bitcoin protège, hein, la supply de 21 millions de Bitcoin qui est arrêtée, qui est transparente, on pourrait penser que cette annonce-là a été interprétée tout de suite comme un « Ok, Bitcoin est l'une des solutions contre ce genre de problème et contre le modèle actuel », entre guillemets. Après, ça a été une raison d'acheter. Pour être totalement franc, s'il y a des gros acheteurs qui se sont positionnés au même moment, c'est très très dur de voir la différence, sachant qu'en ce moment, Bitcoin fait des poussées du genre. On ne s'est pas demandé la semaine dernière, quand il a tapé les 67 puis les 68, quelle était la raison à chaque fois. Donc il faut évidemment faire une analyse et on peut faire des parallèles. De là à donner une réponse parfaite et certaine là-dessus, c'est quand même délicat.
Cher petit, je voudrais vraiment qu'on essaie de mesurer les éventuelles corrélations entre le cours du Bitcoin et les nouvelles fondamentales de l'économie. Et s'il le faut, on va regarder par le trou de la serrure pour voir si oui ou non il existe des liens liens et des liaisons entre Bitcoin et la macroéconomie. Bitcoin mercredi à 69 000 dollars donc, mais dans la soirée, c'est le drame, et vous le disiez Owen, les inquiétudes chinoises ont ressurgi autour de ce promoteur Evergrande qui ne paiera peut-être pas toutes ses échéances de remboursement. On l'a appris donc mercredi soir et juste après, le Bitcoin qui s'effondre de 10% le jour même de son record. Est-ce qu'on peut imaginer un lien?
Alors, on peut imaginer plein de choses, mais je vais vous décevoir, Guillaume. En fait, je suis assez d'accord avec Owen, c'est-à-dire qu'on ne peut avoir aucune certitude sur ce qui fait la hausse ou la baisse du prix du Bitcoin. Alors, c'est vrai qu'on constate quand même sur les 12-24 derniers mois une forme de corrélation entre le prix du Bitcoin et les marchés plus classiques. On se souvient de la chute du Bitcoin aussi en mars 2020 avec tout le reste de la finance mondiale. Donc, c'est vrai qu'on peut imaginer que Bitcoin n'est plus complètement décorrélé de tous ces actifs. Mais voilà, comme Owen l'a dit, c'est peut-être tout simplement une correction assez naturelle, puisqu'on a des phases de stabilisation du marché. On a Bitcoin qui a fait un vrai rallye là, dans les 6 derniers mois, 12 derniers mois. Donc c'est tout à fait logique qu'à un moment, il y ait une prise de profit et que certains investisseurs sortent de Bitcoin à ce moment-là.
La suite, elle dépendra de la montée en qualité, en crédibilité des crypto-monnaies, du regard que portent sur les crypto-monnaies aussi les investisseurs institutionnels. Après ces records et une capitalisation totale des crypto-monnaies qui a donc dépassé pour la première fois les 3 000 milliards de dollars cette semaine, est-ce qu'aujourd'hui, les investisseurs institutionnels sont toujours aussi optimistes sur le potentiel des cryptos pour 2022? Est-ce qu'ils le sont optimistes encore plus qu'ils ne l'étaient, par exemple, il y a un mois?
Alors, c'est une très bonne question, parce que la réponse est non. Pas forcément beaucoup plus optimiste maintenant qu'on a fait des nouveaux records historiques. Ce qui est intéressant, et on en parle à votre émission depuis plusieurs semaines et mois, c'est vrai que les contrats ouverts par les institutionnels, c'est quand même des choses qu'on regarde, parce que même s'ils détiennent pas forcément la vérité, c'est quand même important de connaître leur avis. Ils ont quand même une influence sur le marché. Et d'ici la fin de l'année, en fait, ils sont majoritairement placés avec des strikes, donc des prix d'exercice autour de 100 000 dollars sur le Bitcoin, entre 5 000 et 10 000 dollars sur l'Ether. Donc, optimiste pour la fin de l'année. Oui, en même temps, c'est la tendance générale comme on vient de le voir depuis cet été, donc c'est pas très étonnant. Mais là où ça devient intéressant, c'est pour l'été 2022, en se projetant un petit peu, la concentration finalement des contrats ouverts, donc sur cette échéance de juin 2022, elle se situe en fait à quelque chose près, au même prix que pour cette fin d'année, sur Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc, optimiste jusqu'à présent, oui, mais le fait que le marché a fait des nouveaux records historiques, ça n'a pas changé fondamentalement les positions des investisseurs institutionnels qui ne s'emballent pas pour autant avec des anticipations de x2, x3 ou plus, pour le moment en tout cas, en ce moment. Donc attention à ce qu'on appelle notamment le FOMO, le Fear of Missing Out, c'est-à-dire le peur de louper en mouvement, d'oublier justement la possibilité qu'on puisse avoir quand même des phases de consolidation, comme on vient de le voir, donc toujours une lame de fond positive. Les institutionnels gardent le cap, mais ne s'enflamment pas pour autant.
La semaine n'a pas été marquée que par les records, même si on en parle beaucoup bien sûr aujourd'hui pour dessiner, établir le bilan de cette nouvelle semaine sur les crypto-monnaies. On a vu par ailleurs d'autres avancées. Mastercard, même le bon vieux Mastercard, s'associe à trois acteurs crypto en Asie-Pacifique pour désormais permettre aux clients de dépenser leurs crypto-monnaies directement avec une Mastercard. Une inclusion si poussée, est-ce que ce serait, Owen, une première?
Alors, une première en Asie-Pacifique, peut-être. Après, une première, ça existe déjà. Ma première Mastercard qui me permettait de dépenser de la crypto-monnaie, j'ai dû l'avoir il y a 2 ans ou 3 ans. Donc, c'était une solution qui existait déjà. Pour le coup, ce qui change un petit peu, c'est qu'à l'époque, c'était des processeurs qui travaillaient avec Mastercard qui se sont mis à l'accepter. C'était un petit peu comme si c'était donc les prestataires et les personnes qui utilisaient Mastercard qui le proposaient. Aujourd'hui, on voit que l'accélération est en train de changer d'échelle. C'est-à-dire qu'avant, pour beaucoup de géants, c'était un risque de tomber dans le monde de la crypto-monnaie. On ne savait pas comment ça allait être régulé, on ne savait pas si ça allait être autorisé ou pas, c'était allégal, donc pas encore illégal, mais ça pouvait le devenir. Il y avait un vrai doute. Maintenant, c'est plus pareil. Et on l'a vu notamment, on en avait parlé avec Visa. Visa achète un NFT, on a de l'autre côté Mastercard qui rachète une société CipherTrace qui va tracer donc pour respecter l'anti-money laundering, la lutte contre le financement du terrorisme. Et donc on voit qu'ils commencent à se faire des positions et qu'ils envoient des messages très forts. C'est un petit peu comme une communication entre eux aussi. On est là, on avance, nous aussi. Et donc maintenant, ces géants du paiement commencent à avoir le sentiment que ne pas y aller, représente un risque supérieur que d'attendre pour être sûr de faire. C'est ça qui est assez intéressant. Et c'est ça qui caractérise également ce bull run et qui en augmente le volume global. Et je dis bien le volume global et pas la volatilité, parce que mine de rien, ça se tasse au fil des années si on regarde les différents cycles depuis 2013. Et quand on prend un petit peu de recul, on dit, voilà, maintenant c'est différent, c'est pas simplement les prestataires de Mastercard, c'est Mastercard avec ses prestataires en partenariat qui propose des solutions. Ça va de pair avec l'annonce d'il y a quelques semaines où Mastercard annonçait que toute personne acceptant le réseau Mastercard pourrait accepter la crypto-monnaie. Et on voit donc tous les réseaux de paiement qui sont en train d'évoluer. Donc une première non, là-bas peut-être dans certains pays, en attendant la première, c'est le fait que ce soit Mastercard directement qui va secouer tous ses prestataires en leur disant « Est-ce que vous voulez proposer de la crypto ? Parce que nous, on a des solutions et nous, on est de la partie. »
Oui, mais enfin, tout n'est pas si rose. Exemple de cas pratique. Ça, c'est pour vous, Claire. J'arrive chez mon commerçant, je souhaite payer avec ma Mastercard en crypto, le marchand refuse. Là, ça fait pchit d'un seul coup. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe ? Comment serait-il possible de dépenser mes crypto-monnaies si le marchand ou le site web par lequel je passe ne les accepte pas ?
En fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, avec ces solutions de carte bleue, le commerçant n'a pas besoin forcément d'accepter de recevoir des bitcoins ou une autre crypto-monnaie. En fait, ce qui est pratique, c'est que vous allez payer avec votre carte bleue, vous allez dépenser vos bitcoins, par exemple, mais la conversion va être faite instantanément derrière, tout de suite, par un exchange partenaire, par exemple, un partenaire de Mastercard. Et le commerçant, lui, il va recevoir des euros sonnants et trébuchants si c'est un commerçant qui est dans la zone euro. Donc, votre commerçant, il n'a pas du tout besoin, en fait, de se créer un wallet bitcoin. Il n'a même pas besoin d'aller se créer un compte sur un exchange. Il n'a pas besoin d'avoir un nœud Lightning Network, même si je le recommande, c'est intéressant aussi. Il peut tout simplement garder ses moyens de paiement traditionnels, en fait.
Owen, c'est ce qu'on appelle, en fait, dans le cycle de paiement d'un commerçant, la compensation. En réalité, la plupart des entreprises qui acceptent la carte bleue sont compensées. Quand on vend quelque chose, on ne reçoit pas l'argent tout de suite sur son compte à chaque transaction, sous 24 heures, des fois sous 7 jours. Eh bien, à partir du moment où Mastercard accepte de la compensation d'un paiement en Bitcoin ou en Ether, par exemple, que le commerçant l'accepte ou pas, lui, il a sa monnaie de compensation. S'il dit « je veux que de l'euro », à partir du moment où Mastercard, en quelque sorte, s'occupe dans son coin et compense le commerçant dans la valeur qui lui est due, il voit le Bitcoin ou l'euro comme une valeur, à ce moment-là, ça permet de faire fonctionner le réseau.
On le dit souvent, ce rendez-vous des pros des cryptos, c'est celui des nouveaux investisseurs, place aux nouveaux investisseurs et parmi eux aux millennials. Un article paru dans le Wall Street Journal parle des millennials qui sont devenus riches. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs cet article facilement. Certains d'entre vous se reconnaîtront peut-être d'ailleurs dans le portrait qui est fait de ces millennials devenus riches. L'article s'intitule, pardon pour mon accent, Thank you for the golf invite, but you can't invest my money. Voilà, si vous souhaitez retrouver cet article. Et donc il explique cet article que les jeunes investisseurs millennials ne voient plus l'intérêt de recourir aux services financiers de papa-maman, ceux qu'utilisent leurs parents. Pourquoi une telle méfiance s'est installée vis-à-vis des banques ? Parce que c'est ça qui transpire, c'est la méfiance des millennials vis-à-vis des banques. Alors, et là, ce n'est pas Libération qui le dit, c'est le Wall Street Journal.
Alors, avant de parler de méfiance envers les banques, je parlerai plutôt d'intérêt envers la crypto. Parce que c'est vrai que je pense que beaucoup de millennials ont compris qu'avec les cryptos, on était plus libre, qu'on pouvait gérer soi-même son argent, qu'on ne dépendait pas d'un tiers et donc on pouvait s'affranchir de tout ce monde-là. Donc il y a d'abord un vrai intérêt de fond. Alors bien sûr, il y a un intérêt aussi en termes de rendement, on ne va pas se leurrer. Mais ensuite, ce qui se passe, c'est que le dialogue que ces jeunes ont avec leurs banquiers, avec leurs conseils, souvent n'est pas très intéressant pour eux parce que la plupart des banques ont mis longtemps à aller sur ces actifs-là et aujourd'hui ne sont pas forcément pertinentes pour donner des conseils sur les cryptos. Si vous allez voir une banque française et que vous leur dites « j'aimerais investir dans la crypto, qu'est-ce que vous me conseillez, qu'est-ce que je fais ?» La réponse la plus probable qu'on va vous donner, c'est « Monsieur, nous on ne s'occupe pas encore de ça, on ne cautionne pas ce type d'investissement. » Et donc forcément, les jeunes qui investissent dans la crypto, ils trouvent que leur banque c'est un peu has-been maintenant. Donc tout ça crée une sorte de cercle vicieux, parce que forcément les jeunes se désintéressent de leurs banques, les banques sont peut-être moins attirées par la crypto parce qu'elles se disent de toute façon les jeunes vont ailleurs. Donc,
voilà. Et même si elles commençaient à s'y mettre, il serait déjà trop tard, c'est un peu ça l'idée?
Non, je pense qu'il n'est jamais trop tard, je pense qu'il est tard mais pas trop tard, parce que ce qui est sûr c'est que si elles ne s'y mettent pas, c'est leurs concurrents, les exchanges crypto, qui eux vont s'y mettre et qui vont prendre toute cette clientèle.
Bon, les vieux croutons, les banquiers, Owen? Du haut de vos 23 ans, vous êtes à 23 maintenant ?
24.
Ah, 24.
24. Non, je suis beaucoup plus vieux. Non, alors, les vieux croutons, non, déjà pour deux raisons. Toutes les banques n'ont pas le même postulat. Ensuite, il y a des banques qui sont très très malignes, parce que pour le coup, ce sont des hommes. Derrière n'importe quelle institution, derrière n'importe quelle entreprise, voire même gouvernement, il y a des hommes. Et les banques ne sont pas idiotes. En tout cas, pas la plupart d'entre elles. À la limite, elles peuvent ne pas se positionner pour plein de raisons, ne serait-ce que politiques ou ne serait-ce que de la vision d'autres banques vis-à-vis de leur activité. Mais je suis très très loin de penser que les banques sont idiotes, à tel point que l'on voit des organisations. On voit des banques qui ont des start-up, elles sont plus ou moins loin de cette start-up, mais cette start-up est à fond dans la crypto-monnaie. Elles s'informent, elles suivent ce marché et elles ont compris. Même celles qui ont un postulat et qui ont un peu peur du monde de la crypto-monnaie, elles ont compris. Et puis loin de moi de penser que ceux qui ont monté les empires bancaires sont des idiots. Et d'ailleurs, celui qui veut penser ça pour se faire plaisir, il peut se réconforter. Au contraire, ce sont des personnes qui ont le nez fin, qui ont de la visibilité, qui ont en plus de ça énormément de recul et d'auteur sur ce marché et qui sont soit positionnés en perso, comme on l'a découvert à plusieurs reprises, soit qui ont un avis là-dessus. Donc, pas vraiment, les banques sont des vieux croutons là-dessus. En attendant, il est vrai, quand on s'adresse à un marché qui touche enfin les particuliers, hein, peer-to-peer, de particulier à particulier, des solutions pour particuliers, des gens à qui on a dit « vous êtes idiots, vous êtes fous, ça ne marchera pas », et qui ont gagné beaucoup d'argent très rapidement, ça crée deux choses. Premièrement, ils n'ont plus confiance en l'ancien système, on a voulu les empêcher d'aller dans le nouveau, ils ont gagné beaucoup d'argent. Mais ensuite, et c'est là qu'il faut rappeler le risque, une personne qui achète au hasard un bien dans une ville parce qu'elle va y habiter, la ville a une grosse croissante pour X ou Y raison et l'immobilier fait x4 ou x5. Ses habitants ne sont pas devenus des génies de l'immobilier. Et c'est le problème qu'il y a dans les crypto-monnaies. Il y a des gens qui arrivent, ils sont juste au bon endroit au bon moment, beaucoup, et on en fait également partie. On est arrivé au bon endroit sur une tendance où il y a de la valeur qui s'est créée, pas seulement grâce à nous, il faut être capable de le dire, c'est ce marché qui a été porté et qui est porteur et qui fait que beaucoup de gens ont gagné beaucoup d'argent. Il faut comprendre que l'argent rapide existe grâce aux crypto-monnaies dans certains domaines, mais toujours pas l'argent facile. Parce que ces gens ont gagné rapidement, ils peuvent le perdre rapidement aussi. Donc soit ils ont la maturité d'obtenir cette maturité financière et donc de se sécuriser, soit ils vont connaître le même chemin à la hausse, à la baisse, à un moment donné, parce qu'ils ne le maîtrisent pas plus qu'avant. Ils ont juste eu de la chance et donc il faut prendre sur recul, s'éduquer et s'informer soi-même.
Bon, face à cette révolution de la blockchain et des crypto-monnaies, l'investissement, lui, devient toujours plus accessible à tout le monde en seulement quelques clics. C'est l'autre révolution en cours. On assiste à une vraie transformation digitale dans la gestion de l'argent. L'aisance est néanmoins parfois mauvaise conseillère. Ce qui est aisé perd parfois un peu de sa valeur. Owen, cette facilité de l'investissement aujourd'hui qui transforme presque l'investissement en bien de consommation courante, est-ce que c'est forcément une bonne nouvelle ?
Alors, du coup, je pense que ce soit possible et que ce soit permis, oui, c'est une bonne nouvelle. Il doit y avoir cette liberté. Ça doit être un choix. On ne doit pas être contraint d'utiliser une solution, une récente ou une ancienne.
C'est votre côté punk, ça.
Ça fait partie des premières valeurs qui viennent. D'ailleurs, un jour, ce serait bien qu'on en parle. À la base, ça vient d'où ? Pourquoi ? Comment ? Parce que mine de rien, au tout début d'Internet, dans les années 90, les ciphers qui étaient là sur le réseau et qui donnaient leur avis, au début, il y a eu du coup des gens qui étaient un peu plus extrêmes, un anonymat complet, mais il y avait quand même des gens qui se sont dit « Attendez, on est en train de créer Internet, un réseau, on y fait passer de l'information, on y met tous de l'information, c'est même pas chiffré. N'importe qui peut, en gros, se connecter au début et écouter tout ce qui passe dans le réseau. Il y a des gens qui se sont dit non, il faut protéger nos vies privées, c'est pas parce qu'on passe sur une nouvelle technologie, c'est pas parce qu'on passe sur un nouveau support qu'on doit pas se rappeler qu'il y a toujours des gens qui chercheront à en abuser. Et donc il y a des profondes bonnes valeurs bienveillantes qui ont été mises à la base dans ce réseau, donc c'est bien de laisser cette liberté, mais il faut comprendre que si on en laisse trop, il y en a certains qui en abusent, et à l'inverse, il faut comprendre que si on la bride trop, ce n'est plus une liberté. Tout simplement. C'est un entre-deux à trouver. J'ai pas la recette magique, malheureusement, à vous donner aujourd'hui.
Claire, là-dessus, sur l'investissement qui devient, avec les frais zéro, parfois, et de plus en plus fréquent, qui devient un bien de consommation courante, l'investissement, ça vous inspire quoi ?
Alors, encore une fois, je vais être d'accord avec Owen. Ce que je trouve intéressant, finalement, avec la crypto, c'est que ça permet... On peut avoir deux chemins, c'est-à-dire qu'on peut décider d'être vraiment indépendant, de garder sa crypto, de ne pas la confier à un tiers, de pouvoir faire les transferts qu'on veut avec qui on veut. Et puis, on peut décider que on n'a pas envie d'être complètement responsable, on a envie de déléguer tout ça à une institution. Et dans ce cas-là, on reste dans le système traditionnel avec une banque ou un exchange. Et c'est ça que je trouve beau, en fait. On n'est pas obligé d'être à un extrême ou à un autre.
Le potentiel des crypto-monnaies, on y revient. Xavier Fenot est toujours avec nous au téléphone. Xavier, vous êtes toujours là ?
Oui.
Vous nous accompagnez. Vous n'êtes pas endormi, Xavier ?
Pas du tout.
Bon, dure jamais, Xavier.
Record du Bitcoin, donc cette semaine, on en a beaucoup parlé. Ces évolutions, ces avancées aussi dans l'écosystème crypto et blockchain. Il faut néanmoins séparer le bon grain de l'ivraie. Vous allez nous y aider. On a vu aussi, en même temps que le record du Bitcoin, l'envolée cette semaine des shitcoins, comme on les appelle, les coins poubelles, un peu comme le Shiba ou le Dogecoin. On dit comme ça, Dogecoin ?
C'est ça, Dogecoin.
Dogecoin. Ah oui, d'accord, c'était une faute de frappe. Pardon. Est-ce que leur envolée. Non, mais parce qu'il y a tellement de crypto, je me disais, ça doit exister, le Dogecoin.
Ça doit exister.
Pardon à tous, là, c'est ma naïveté extrême. Est-ce que l'envolée donc concomitante de tous ces shitcoins pose un problème ? Est-ce que c'est un signal d'alerte néanmoins sur la nature de ce mouvement de hausse des crypto-monnaies ? Xavier ?
Alors, c'est vrai que ça peut faire de l'ombre et créer peut-être même d'ailleurs un sentiment de frustration hein, quand on a la recherche de performance. C'est vrai que lorsque vous avez des progressions hallucinantes, 2x2, voire peut-être même plus sur Shiba en quelques jours et sur d'autres, bah on dit finalement que mon Bitcoin qui ne prend que 10% sur la semaine ou mon altcoin qui prend que 15-17% depuis le premier du mois, bah, je suis pas sur le bon cheval. Donc, je pourrais faire mieux et plus vite ailleurs. Et finalement, c'est aussi de se détourner de celles qui ont des fondamentaux plus solides parce que bah, ça va pas forcément assez vite. Alors non, parce que aussi la capitalisation totale déjà se porte bien, premièrement, donc c'est pas forcément un signal d'alerte. Hein, le marché dans son ensemble, et on l'a vu, finalement se comporte plutôt pas mal en cette fin d'année en tout cas. Les projets se développent, et justement d'ailleurs, on a ici deux experts chaque semaine, donc Claire et Owen, pour parler justement de ce qu'il y a derrière les cryptos, c'est-à-dire les fondamentaux. Et trois, ça reste quand même un micro-marché. 3000 milliards, c'est un peu plus que la capitalisation d'Apple. C'est 2 fois moins que les échanges quotidiens qu'on a sur le marché des devises. Donc, pour le moment, il y a de la place pour tout le monde, même, je dirais, pour les cryptos qui sont soutenus exclusivement par leur très grande communauté. Donc, je pense pas qu'on puisse aujourd'hui considérer qu'une catégorie de crypto puisse nuire aux autres. Par contre, là où ça peut être vrai, c'est qu'avec une telle volatilité sur certaines, on peut effectivement, ça peut entraîner des désillusions brutales, voire même violentes, au risque peut-être de les généraliser à l'ensemble des cryptos. Donc pour le moment, oui, restons optimistes, mais pas euphoriques, ça évitera justement de paniquer, comme c'est le cas actuellement, lorsque le marché corrige de quelques pourcents.
Et on rappelle, j'ai pas eu l'occasion de le dire encore depuis le début de ce rendez-vous, mais c'est notre slogan, on investit dans les cryptos, bien sûr que l'argent dont on n'a pas besoin, qu'on est prêt à perdre, évidemment, actif toujours très spéculatif. Les pros des cryptos, c'est chaque vendredi, vous pouvez retrouver également les meilleurs moments sur notre nouveau fil Twitter, BFM Crypto. Xavier Fenot nous accompagne au téléphone depuis Interactive Trading, Claire Balva, KPMG France et Blockchain Partner, merci beaucoup Claire.
Merci à vous.
Et Owen Simonin en plateau avec nous cette semaine. Merci Owen d'être passé nous voir.
Merci
en ce
beaucoup.
Pont du 11 novembre à la tête de Just Mining et sa chaîne YouTube Asher. Combien? 450 000
400 000 et on en a fait 16 000 en 10 jours. Là.
16 000
et
abonnés
là,
plus.
Là, c'est affolant.
Ça va trop vite Owen.
Ça va vite,
ça va trop vite comme dans les bronzés. Ça va trop vite. J'y vais mais j'ai peur. Non, vous n'avez pas peur.
Non. Bah, ça fait peur quand même. Ouais. C'est normal.
Forme de vertige quand on attend d'abonnés.
Bah, disons que plus on est, enfin, il faut pas prendre le temps de s'informer et quand ça va très vite, on est obligé de trouver des solutions. On fait avec.
Il a 24 ans et donc plus de 400 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Le YouTuber francophone au succès le plus retentissant dans cet univers des crypto-monnaies. Il nous accompagne lui aussi, comme Claire, chaque vendredi. Merci à tous les deux. Le CAC 40, on se rebranche au marché, à la bourse, en direct dans un instant. Le club vous ouvre ses portes dans quelques secondes. On est en train de signer sur les marchés et à Paris, une 6e semaine de hausse d'affilée. La meilleure série pour le CAC depuis mai 2018. On s'en reparle dans un instant. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.